Bonjour, Cocasse.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans ce 10e épisode, j'accueille Laure, maman d'une petite fille, qui vient nous parler de sa matrescence et des profonds changements que l'arrivée de son enfant a opéré en elle. Elle nous offre avec authenticité le témoignage de son enfantement et bien plus. Je vous laisse découvrir ce beau partage qui résonne beaucoup en moi et une métaphore qui me plaît beaucoup, qui, je l'espère, vous parlera aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laure, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour écouter ton récit.
Salut Laetitia, eh bien, je suis enchantée de parler avec toi. Ça fait un moment que je t'écoute et c'est un plaisir pour moi de raconter la naissance de ma fille et tout le changement que ça a provoqué chez moi. Je m'appelle Laure donc, et j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Margot, qui est née en mai 2017. Et bon, c'est pas une surprise, mais ça a un peu changé ma vie. je pense que la naissance de Margot, elle commence à très très longtemps. J'étais pas une personne très sûre de moi quand j'étais jeune, j'étais plutôt mal dans ma peau. Et j'accumulais un peu les histoires qui ne marchaient pas, les choses un peu bancales, les jobs où j'étais pas, plein de choses comme ça, bof. Et j'avais du mal à me dire que je méritais d'être heureuse et que je méritais des gens bien dans ma vie, tout ça. Et je suis partie en France en 2009, parce que j'avais besoin de partir, de fuir un peu ce que j'arrivais pas trop à. Donc je suis partie vivre à Londres. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est à côté, mais alors le dépaysement est total, les gens ils sont vraiment très différents. Et ça s'est hyper bien passé, j'avais un boulot que j'adorais. Et j'ai rencontré mon mari. Alors c'est toujours un peu émouvant d'en parler parce que je crois que c'était une des premières fois que je rencontrais un vrai homme bien, un homme bon. et ça a tout de suite été incroyable. J'étais pas très éveillée, je pense, à l'époque, mais. Quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était une évidence. Mais même, on n'était pas ensemble et tout. C'est juste la première fois que j'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est pas le coup de foudre un peu gnangnan et tout. C'est juste... en fait, je crois que je suis arrivée à bon port, en tout cas pour une bonne partie de ma vie, quoi. Et c'était évident. Ça veut pas dire que c'était simple et facile, parce que j'avais un peu mes petits démons qui revenaient. Et j'étais là, mais je ne mérite pas d'être aimée. Moi, ça ne devrait pas être comme ça. C'est un peu le côté Calimero. Voilà. Et il était là. Et il était... Enfin, c'est pas le mec parfait, il était là, juste lui. Et c'est là que je pense que ma vie a commencé un peu à changer. Et ma façon de voir ma vie a changé aussi à ce moment-là. Bon, j'allais pas très bien quand même. Et un jour, il m'a dit, écoute, Laure, j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider. Et je pense que maintenant, c'est très dur pour moi. Il faut que tu te soignes, en fait. Et donc, j'ai commencé une thérapie. Il y a 10 ans maintenant. Et bon, ça a fait du bien, ça allait mieux. Je commençais à comprendre des choses, un peu à je sais pas si pardonner c'est un bon mot parce que j'aime pas trop ce mot, mais à faire la paix avec mes parents, avec mon histoire, avec les choses et tout. Et puis ça a fait sortir pas mal de trucs que j'avais pas digéré, donc très bien. Et bon, bah, sur ce, ça va quand même vachement mieux. Notre relation s'éteille, on est vraiment bien. Et puis, on décide de rentrer en France parce que ça faisait 7 ans quasiment pour lui, 5 ans pour moi. Et puis, nos familles étaient à Paris. Et puis, eh ben, c'était le moment. Et puis, moi, je pense que je m'étais bien... j'avais passé un vraiment bon moment à Londres. Et j'avais grandi, je pense, là-bas et tout. Et je me disais, bon, ben voilà, maintenant, je veux faire ma vie de famille en France. Peut-être que c'était culturel, peut-être difficile. C'était l'intuition qui me faisait de rentrer, je ne sais pas. Et on est rentré, on s'est marié, et là, la tuile.
J'apprends que je suis porteuse de l'X fragile sur mon chromosome X. Donc il y a un gène qui est pathologique et je peux transmettre en fait à mes enfants. Donc moi, je suis porteuse saine. Et alors, il se trouve que c'est une pathologie qui est vraiment complexe. Les mécanismes de transmission sont différents en fonction de si c'est la mère qui transmet ou si c'est le père. Ça va être différent si c'est un garçon ou si c'est une fille. Il y a des histoires de mutation et de prémutation. Et donc en fait, on a fait un parcours de génétique assez long qui a duré 5 ans. Ouais, à peu près, hein, ouais, entre le diagnostic et et aujourd'hui, en fait, on est encore suivi par la généticienne. Donc ça fait 5 ans qu'on est suivi en génétique et on comprend toujours pas en fait très bien. Et même les généticiens restent très humbles en fait sur tout ce qui est pronostic et tout ça. Donc voilà. Et alors ce qui nous était proposé, c'est soit de faire un diagnostic préimplantatoire, mais en fait nous on a été rejetés. Notre dossier était pas assez bon parce qu'on était trop âgés à l'époque. Et voilà. Ou alors faire une amniosynthèse. Oui. Voilà.
Ouais. Évidemment, parce qu'il n'a pas dit que c'était mon père. Déjà, les choses se compliquent, tu vois, là, le monde s'effrite un peu autour de moi. Je suis là, oh, c'est quoi cette histoire et tout. Et on en parle beaucoup avec Laurent, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment beaucoup parler avec lui. C'est vraiment très confortable, en fait, de pouvoir communiquer, être écouté. Okay. On n'est pas toujours d'accord. Il y a des moments où c'est très dur. Et lui, c'est pareil. Je pense pour lui. Mais c'est la vie, en fait. Mm-hmm. Et être comme ça, et on est chacun sur un chemin. Et en fait, on en parle. C'était compliqué. Et on se dit, écoute, on s'aime. On essaye. Quoi qu'il arrive, on aimera. On se croyait un peu invincible, et c'est un peu ce côté naïf, tu vois, on se disait, mais tout ira bien, quoi.
Ouais. Tu me fais monter les larmes aussi, c'est tellement plein d'émotions.
Ouais, mais c'est
tellement beau d'entendre ça, en fait, le quoi qu'il arrive, on l'aimera, je trouve ça fou.
Non, mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit, c'est pas du tout, hein, parce que sinon on n'aurait pas essayé.
Ouais.
Et en fait, je tombe enceinte tout de suite. Et pour moi, c'était une évidence. Tout allait bien. J'ai passé 3 mois à avoir des nausées, mais j'étais tellement. Enfin, pour moi, c'était. J'étais sur un nuage. Et je sais pas, j'étais heureuse. J'arrivais à m'affirmer, alors que d'habitude, au boulot, j'étais absolument incapable de m'affirmer et tout. Et là, j'étais là, non, mais je travaillerai pas jusqu'à 22h. C'est pas possible. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Et ça se passait bien. Et voilà. Et donc vraiment, je sais pas, ça a été un truc. J'étais sûre que tout allait bien quand on nous a fait le test pour être ISO 21. Parce qu'on a été quand même pas mal suivis, hein, avec l'histoire de l'X fragile. On était sûrs de nous, mais on avait quand même besoin de sentir un peu les médecins derrière nous. Hein. Mm-hmm. De toute façon, pour ce genre de choses, c'est pas simple. Hein, rien n'est simple hein, dans ce contexte génétique. Et donc, la grossesse se passe vraiment super bien. Les échos se passent super. Là, on est tout content et tout, et voilà. En fait, pour le suivi de ma grossesse, moi, il n'était pas question que j'accouche à l'hôpital. C'était un no-go. J'avais trop peur, en fait, qu'il y ait du monde qui rentre dans ma chambre, qui sorte, de ne pas connaître les gens. J'avais vraiment, c'était pas envisageable pour moi. Et donc, j'avais décidé d'être suivie par une sage-femme qui s'appelait Paloma Chaumette, que j'adorais. Et c'est une amie qui m'avait dit un jour, par hasard, dans une conversation, « Ah, pour ma fille, moi, je ne veux pas de péridurale, parce qu'elle était enceinte, je ne veux pas de péridurale, je veux faire un accompagnement global avec un accouchement physiologique. » J'avais été... Ah! Et c'est là que je dis, à cette époque, j'étais vraiment naïve, au sens où j'avais de la chance. J'avais cette copine qui avait fait ça, et moi, je m'étais dit, « Ah, formidable, je vais faire pareil. Mm-hmm. » Paloma Chaumette. J'étais là, « Waouh !» En plus, elle a écrit un petit livre à l'attention des professionnels et aussi du public, mais... c'était pas mal pour les professionnels, hyper intéressant sur la naissance, sur la médicalisation et tout. Et donc, je suis suivie par Paloma, dans un petit cocon, c'était vraiment formidable. Enfin, moi, j'avais passé un moment, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Et on prépare la naissance, elle m'accompagne, je sais plus, enfin, ça se passait bien. Donc, Paloma, et en fait, il se trouve que le jour de la naissance, j'étais par Paloma et tout, et moi, je commençais à en avoir un peu marre sur la fin. Je trouvais ça long. Et puis, je commençais à être un peu rattrapée par plein de croyances. Tu sais, la grossesse, c'était un peu la bulle, tout se passait bien. Et puis, sur la fin, j'étais là, oh, c'était long, je me trouvais toute lourde. C'est commencé à être un peu long. Puis, je vais voir Paloma et je lui dis, écoute, c'est un peu long. Et elle me dit, écoute, incroyable, le pré-travail est complètement terminé. Il suffit juste de lui faire confiance, elle va sortir, c'est parti. Et elle me fait une petite séance d'acupuncture en me disant que ça aide parfois un peu le bébé à se lancer. Et elle me dit ça en me disant, bon, écoute, ça va prendre son temps, rentre chez toi, repose-toi, tout va bien se passer. Et là, donc elle me fait ça, je me souviens un peu des heures, elle me fait ça vers 4h30, elle me fait un gros câlin, elle me dit ça va aller, Laure, et tout. Et je rentre chez moi en taxi, j'arrive à la maison à 17h30, j'avais des contractions toutes les 3 minutes.
Ah oui.
Donc elle était prête. Hein. Et j'appelle Laurent, je fais Laurent, vite, je crois qu'il faut que tu rentres. Mais faut que je rentre ou faut que je rentre, j'ai le temps. Je dis, non,
il faut.
Et je dis, bon, je te laisse encore un peu, je te rappelle. Et 15 minutes après, je fais Laurent, tu pars tout de suite.
C'est bon.
Il arrive à la maison, lui, il n'y croyait pas trop parce que tu vois, il se disait premier accouchement, piece of cake, ça va aller. Et il me dit, je peux prendre une petite douche. Et puis je le regarde, je fais, oh, mais bon rêve, j'avais tellement mal. C'est pas que j'avais mal, c'est que je sentais que c'était parti, quoi. Mm. Et il me dit, c'est toi qui sais. Donc voilà, on monte dans la voiture. Le trajet, j'avais des contractions vraiment toutes les 3 minutes. Donc, je faisais tous les exercices de respiration, ça se passait bien. J'étais un peu dans ma bulle. On arrive à la maternité, qui était une petite maternité pas loin de chez nous. À l'époque, ils faisaient 600 accouchements par an. Il y avait une salle physio, j'avais visité un peu avant. Donc, on avait choisi un truc le plus cocon possible, tu vois. Mais un peu médicalisé quand même, parce que j'étais pas prête, je pense. J'avais pas entendu parler d'accouchement à la maison, c'était pas encore un sujet. Et donc, on arrive, je traverse le couloir, je crois que c'était de traverser la vie, quoi. C'était ça, j'ai dû m'arrêter 10 fois. Et j'arrive, il y a une sage-femme qui m'accueille. J'avais appelé Paloma, évidemment, parce qu'on devait se rejoindre. Et il y a une sage-femme qui m'accueille, elle vérifie, elle me dit bah, « vous êtes déjà à 3 » et tout. Je dis « ah, bien, bien, bravo mon corps, bravo Margot » et tout. Et elle me dit « est-ce que vous voulez aller prendre un bain ?» et tout. Je dis « ouais, parce que j'avais pas trop à trouver de position confortable, je savais que l'eau, ça serait vraiment une aide. » Donc le bain, là, ça a été un moment dont je me souviendrai toute ma vie et avec beaucoup d'émotions. Il était 20h. Je pense qu'en bas, comment ça, je sais plus. Enfin. Et le jour commençait à tomber, il n'y avait pas de lumière artificielle dans la pièce. Et Laurent était assis à côté de moi. Il avait mis de la musique et tout. Et les contractions venaient, ça se passait bien. Enfin, c'était dur. Mais je crois qu'il y a une des femmes que tu as interrogées qui disait que c'est une douleur très particulière. C'est pas la douleur. Il n'y a pas que ça dans cette douleur. Et moi, c'était vraiment ça. J'étais bien, en fait. Je me sentais hyper bien. Et j'étais là, allez, Margot. Enfin, Margot, je savais pas que c'était une fille. Allez, petite ou petit, ça va aller. On fait ça ensemble. Waouh, t'es forte, moi aussi. Et à un mouvement, ça pousse. Mais waouh. Et là, j'appelle chez la sage-femme. J'ai écouté, il faut la péridurale tout de suite. Elle me dit, non, il faut pas la péridurale, il faut pousser. Et je suis pas bien. Et donc je sors et là je m'installe avec Laurent derrière moi et il me tient les jambes et tout ça et je pousse. Et là, je sais pas, j'ai perdu confiance en fait. C'est bizarre, hein. Y a un espèce de truc, j'étais arrivée à dilatation, tout s'est bien passé. Et il y a un truc où j'ai perdu un peu le contrôle. Enfin, pas le contrôle, mais j'ai un peu perdu le fil. J'avais hyper peur de pousser. Mais vraiment, très très peur de pousser. Je me disais, je savais pas faire. J'étais un peu paniquée et la sage-femme était hyper sympa, hein, et Paloma n'est pas venue en fait. C'était un peu ça le truc, c'est que Paloma en fait était malade.
Ah d'accord.
Elle n'avait pas.
Ouais.
Et ça a été C'est la faute de personne, en fait. Mais ça a été le moment où ça a été un peu compliqué, parce que autant pour le travail, vraiment, je me sentais bien seule, j'étais dans ma bulle, Laurent était à côté, il était... en fait, j'étais parfait. Après, il m'a dit, mais Laure, j'ai rien fait. Je lui ai dit, mais justement, ouais. Il n'y a rien à faire, sauf si je te dis, masse-moi un peu là, ou est-ce que je peux avoir ça. En fait, il remettait la musique, il respirait avec moi, mais c'était juste ce qu'il fallait.
Et ce qui est énorme dans ces moments-là, c'est qu'il puisse être confiant, serein, et ça change tout.
Ah ouais, et sentir qu'il était là... en fait, c'est quelqu'un que je trouve incroyablement ouvert, Laurent. Et c'est une chance pour moi, enfin vraiment, parce qu'il m'apprend aussi à être ouverte. Mmh. Et donc, il était là, il me disait, c'était pas facile. Après, il m'a dit, c'était pas facile, je te voyais. Mais je savais, en fait, que j'étais capable, et que je gérais, et que ça se passait bien aussi, tu vois. Mmh. J'ai pas de signe particulier de difficulté, tu vois. Enfin, pas, c'était un accouchement, quoi, tu vois. C'était pas non plus comme si on allait faire une promenade dans un parc, hein. Non, mais il était plutôt lucide sur le sujet, quoi.
La puissance l'a pas effrayé quelque part, parce que c'est vrai que souvent c'est ça en fait. Quand j'ai pu entendre moi des partenaires, c'est vraiment le côté où waouh, c'est tellement impressionnant que c'est pas toujours facile d'avoir la place. Mais là, avoir un rock comme ça, un phare, c'est magique.
Ah ouais, non mais enfin, je me sens hyper chanceuse en fait, parce que il est. C'est, je peux pas dire parfait, c'est pas forcément un mot qu'on utilise si facilement. Mais pour moi, c'était dans ma vérité à moi, c'était parfait. Dans ce moment-là, il était juste... il me disait, mais écoute, il m'a dit après, parce qu'on en a... on parlait pas, hein. Moi, je suis... on va en reparler, mais je suis très, très sensible du toucher. Non, je supporte pas qu'on me touche. Donc, il pouvait pas me toucher. Hein. Il fallait surtout pas me toucher. C'était... en tout cas, pendant le travail. Mais il sait, en fait. Il me connaît super bien. Et je sais pas, il avait cette confiance qui m'a fait un bien fou. Tu vois, je savais qu'il était là. Je savais qu'il avait confiance. Il se sentait... peut-être impuissant, mais j'irais super bien. Tu vois, enfin, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'était comme ça. Je me disais, waouh, en fait, j'ai une chance folle, quoi. Et voilà, donc. Et là, la poussée, ça a duré hyper longtemps, parce que j'avais peur. Et j'arrivais pas à me mettre dans des positions. Et je pense que là, c'est là où. C'est peut-être là où je réalise que j'étais un peu naïve, en fait. Que je pensais que les choses arrivaient un peu comme ça. Et je ne m'étais pas trop préparée à la poussée, alors que je savais que c'était un truc qui me faisait peur. Et le fait que Paloma ne soit pas là, c'est là où j'ai un peu senti le... je ne sais pas comment me mettre, quelle position utiliser. Et comme Laurent était là, je n'osais pas trop me mettre à quatre pattes et tout. Donc j'étais un peu dans une position semi-gynécologique sur un... Ça, c'est une salle nature... Donc, j'étais dans ses bras, j'étais calée contre lui, contre son torse, et il tenait mes jambes et tout, mais j'arrivais pas à me sentir bien. C'était un peu compliqué. Et puis, au bout de 35 minutes, la sage-femme fait « Bon, ça vous va si on change de pièce ?» Et je fais ben, « Si ça me permet de me sentir, d'avoir moins l'impression de pousser pour rien, oui, en fait, on y va. » Donc, on passe dans la salle avec les étriers, tout ça, voilà, bon. Et là, ça a été beaucoup plus vite. Clairement, c'était probablement parce que j'arrivais pas à trouver une position. Là, bizarrement... avec les pieds qui se poussaient sur les prières, en fait, ça m'a donné vraiment des noms. Ça a duré une vingtaine de minutes après, ce qui était plutôt normal. Et à un moment, je me souviens, je me dis, écoutez, on arrête, je vais mourir là, on arrête. Puis la sage-femme, je trouve que vraiment, elle était géniale, elle me dit, ah non, hein, maintenant vous allez pousser, hein. Non, allez-y, vous allez y arriver. On voit sa tête, là, elle a plein de cheveux. Bon, bah, ok. Et je criais, et il y avait la sage-femme qui disait, mais arrêtez, vous allez faire peur à tout le monde. J'avais juste. En fait, quand j'y repense, c'était drôle parce qu'il n'y avait aucune malveillance. Vraiment, elle faisait ce qu'elle pouvait, tu vois. Et c'était vrai. Il y avait vraiment beaucoup de bienveillance. Et elle m'encourageait. Enfin, moi, si j'ai un tout petit regret, c'est d'avoir perdu ma confiance en moi à ce moment-là. Parce qu'en fait, finalement, j'ai fait et ça s'est hyper bien passé. Et là, c'est une poussée à un moment où la tête sort et tout. La poussée suivante, je crois, le corps sort. J'étais un peu perdu le fil à ce moment-là. Et la sage-femme me dit, prenez-le, mettez-le sur votre ventre. Et le moment incroyable. Le temps se suspend. Je sentais sa peau, tu sais, un peu humide avec le sang, le liquide amniotique, comme une petite gelée et tout ça. Et j'étais là, je t'aime. Incroyable, tu vois, j'étais là, oh là là. Elle respire. Et elle a fait ce qu'elle fait encore aujourd'hui, c'est, elle a pas crié. Et elle s'est mise à regarder. Avec ce regard hyper profond, hyper magnifique, enfin, ces yeux qui s'ouvrent et qui regardent avec, voilà, qui accueillent le monde autour d'elle et tout ça. Et voilà. Et puis la sage-femme dit, ah, non, bah, allez-y, c'est un garçon ou une fille et tout. Puis nous, on pensait que c'était un garçon. Puis Laurent, il regarde, tu sais, il était un peu intimidé, il regarde en dessous la jambe, puis là, il ouvre les yeux, il me regarde, il fait, regarde. Et puis je fais, bah quoi? Bah, c'est une fille. Ah, c'est une fille. En vrai, c'était vraiment... Moi, j'ai passé un beau moment, pas même incroyable, en fait. Et ma petite poupette sur le sein, et je sais pas, je sentais son odeur, l'odeur de son cuir sur ses cheveux, là, tu sais, cette odeur de naissance incroyable. C'était tellement primal. J'ai l'impression d'être une maman animale à 100% à ce moment-là. Et puis voilà. Et là, je ne sais plus trop comment le temps est passé. Les souvenirs sont un peu flous à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps il est resté sur ma peau, mais j'ai l'impression un long moment. Et Laurent, il était à côté, ça se passait bien. Je crois qu'il a coupé le cordon assez rapidement. Mais j'avais pas trop parlé de ça avec Paloma. Et puis en fait, je ne savais pas qu'elle ne serait pas là. Donc avec Paloma, les choses, elles étaient hyper naturelles. Je pense qu'elle m'aurait demandé, est-ce que tu veux qu'on coupe le cordon ou pas? Parce qu'elle le savait. Donc en fait là, j'étais pas vraiment très actrice de ce qui s'est passé. Bon voilà, pour une prochaine fois, je pense que je ferai un programme de naissance. Et puis je me suis renseignée. Et puis je suis des comptes aussi sur Instagram qui me permettent de nourrir aussi ce qui me touche et ce que je souhaite dans la maternité, dans le futur, si jamais ça arrive. Et voilà, donc du coup, j'ai ma petite poupette, tout va bien. Elle n'est pas aspirée, elle est là. Elle a eu un peu de mal à prendre le sein. Donc, on lui laisse un peu le temps, elle émerge, elle arrive. Et alors, quand je n'avais pas eu de péri, 2 heures après, elle me recoupe parce que j'ai une petite déchirure. Voilà, sa femme me recoupe parce que j'ai une petite déchirure. Le placenta, je n'ai pas trop suivi. Pareil, tu vois, c'est des choses, en fait, je ne m'étais pas informée, mais c'était là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis bah, je rentre en chambre avec ma petite sur mes deux jambes, j'étais en une patate incroyable. Et ça s'était bien passé, c'était comme je voulais en fait, comme j'étais prête à ce que ça se passe, et puis j'avais mon mari à côté de moi, tout se passait bien. On rentre à la chambre et on est dans une maternité où il y a des chambres avec des lits pour le père, mais un lit, un vrai lit.
Ah, super.
Ah, extra, non mais vraiment, franchement, il faut qu'il fasse tout ça.
Mais oui, bien sûr. En effet,
mais non, mais
c'est tellement important de ces moments-là de pouvoir être en famille, ensemble, de se rencontrer ensemble, ça change vraiment.
Ah ouais, non, mais ça change tout. Honnêtement, c'était... Ouais. Donc il a eu ses 3 jours avec moi à la maternité, avec notre fille et tout. Tu sais, il y a une espèce de... un peu comme à la maison. Ouais. Et la maternité, ils étaient bien parce que Paloma, elle avait fait un super boulot avec le staff. Et donc pour l'allaitement, on a été plutôt aidés et tout. Et voilà, et surtout, moi, avoir Laurent avec moi, en fait, c'était même pas une option, en fait. Ouais. Et je me rends compte à quel point je me rendais pas compte que c'était une chance. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça partout du tout. J'écoute des récits parfois, je me dis, oh là là, mais c'est... moi, j'ai tellement aimé avoir Laurent, et c'est bizarre qu'on leur propose pas. Moi, ça me paraissait naturel, tu vois. Et il était là. Il... Comme ça, en fait, ça permet aussi que lui, il soit vraiment à 100% tout de suite, en fait. Que c'est... En fait... Parce que déjà, la mère, elle ne peut pas tout faire. Et ensuite, il ne faut pas que la mère fasse tout. Non pas parce qu'il ne faut pas que ça soit... Il ne faut pas que la mère fasse tout parce qu'en fait, pour le lien... L'enfant, il a besoin de liens avec beaucoup de monde. Enfin, évidemment, avec sa mère, hein, si c'est sa mère, bon. Mais il a besoin de liens aimants. Peu importe qui est là, mais il a besoin de liens aimants, mais pas qu'une seule personne. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Peut-être que je me trompe. Et avoir Laurent, je me dis, mais c'est super parce qu'elle a tout de suite ce lien hyper fort avec son père. Et moi, je peux partager des trucs avec Laurent que j'aurais pas pu partager s'il n'avait pas été là la nuit, par exemple. Donc, bon, ça c'était cool. Après, elle a fait une jaunisse parce qu'elle tétait pas bien. On a mis du temps à la faire tétait bien. Et puis à un moment, il y a une sage-femme qui nous a écouté. Ah, mais attendez, là, elle tétait pas bien. Il va falloir lui mettre du lait artificiel. Je suis, ah, non, je souffre des seins. Alors vous n'allez pas lui donner du lait artificiel, madame. Hein, je vous dis tout de suite, c'est même pas la peine. Elle m'a écouté. Je comprends, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on la met au sein, on lui prépare une petite quantité de lait artificiel qu'on met dans un dispositif d'aide à la lactation. Comme ça, vous, ça stimule. Elle, le DAL, ça goûte assez vite le dispositif d'aide à l'allaitement, ça coule. Donc en fait, ça lui, ça l'aidait, ça la faisait téter pour renforcer sa mâchoire, je sais pas quoi. Et en même temps, bah, elle avait à la fois mon lait, que je ne peux pas en très grande quantité encore, parce que je n'avais pas eu la montée de lait, et à la fois, elle avait ce petit biberon en plus, parce qu'il fallait qu'elle ait du liquide.
Ouais. Mais c'est, du coup, c'est assez rare que ça soit proposé comme ça d'emblée, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais finalement, bah, c'est le coup classique, hein, le biberon est proposé très vite. Le biberon, ça coule beaucoup plus facilement, donc en plus, la maman est moins stimulée, l'enfant... prend directement une succion qui est différente et c'est le début, début du sevrage. Voilà, malheureusement.
Et alors, moi, c'était pas une option. Hein. Moi, je voulais allaiter, c'était pas disponible et je voulais allaiter longtemps. Et c'était... Après, je suis lucide. Si ça s'était mal passé, s'il y avait eu des choses, il y aurait un moment où je me serais dit, écoute, je suis malheureuse et je rends mon enfant malheureux, je m'arrête. Et c'est mon choix à moi. Mais je veux pouvoir choisir, moi, pour moi et pour mon enfant à la naissance. Et donc je dis, mais vraiment, hein, vous êtes sûre que ça ne va pas mettre en danger mon allaitement? C'était hyper important. Ça, elles me disent, écoutez, vraiment, les dispositifs d'aide à l'allaitement, ça marche. Ça permet de lui donner un peu de liquide tant que la montée de lait n'est pas là. Et voilà. Et en fait, ça a marché. La montée de lait est arrivée. Mais elle s'est quand même retrouvée en couveuse pendant 4 heures. Et là, comme la montée de lait avait eu lieu, j'avais tiré mon lait, je leur avais donné et tout. Mais finalement, c'était moi qui l'ai nourri. Et puis, bon, voilà. L'allaitement, j'ai trouvé ça difficile au début. Et surtout qu'en fait, c'est là que mon expérience était un peu mitigée, mais bon. En fait, Paloma, elle ne pouvait pas venir me voir. Mais pareil, moi, j'avais dit, je veux un accompagnement global. C'était hyper important. Ça me donnait confiance en moi. Et je me disais, voilà. Et donc, elle n'a pas pu venir me voir. Et j'ai un peu perdu pied à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de ma fragilité, beaucoup de choses qui m'ont rattrapée. Et aujourd'hui, là, 3 ans après, je me dis, c'est très bien parce que j'ai beaucoup changé. Et je pense que c'était un chemin. Et alors là, la suite, en fait, c'est un peu l'histoire de ma vulnérabilité. Parce qu'en fait, autant pendant la grossesse et l'accouchement, je savais ce que je voulais pour Margot, pour moi. Je savais ce que je voulais pas. J'étais sûre de moi. C'était des choses qui étaient évidentes. Autant une fois que j'ai eu ma fille, ça a été très difficile de prendre de la distance par rapport à ce que les gens disaient, ce qui est mieux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et j'écoutais vachement, je prenais vachement de choses sur moi et je me disais « Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » On oubliait un peu le lien avec ma fille par certains côtés, je crois, parce que maintenant que j'y pense, je me dis « Mais Laure, tu faisais tout ce que tu pouvais, quoi. Enfin, un enfant fleur, c'est dur pour lui. Et puis alors voir son enfant souffrir, c'est un truc... c'est pas dans l'ordre du tout des choses, quoi. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais... Enfin, non, évidemment, quoi. Donc, voilà, ça a commencé... Là, ça a été un peu compliqué. Et en fait, j'ai fait une dépression du postpartum. Bon, voilà. C'est encore un peu touchant, enfin, un peu émouvant pour moi, d'en parler. Parce que... je pense que cette petite fille... tout ce dont elle avait besoin, et encore aujourd'hui, je pense que c'est vrai avec elle, et peut-être pour d'autres enfants, elle avait juste besoin que je sois là avec elle, avec authenticité, et j'arrivais pas à me décrocher, tu vois, de tout ce qu'on disait, tout ce qu'il fallait faire ou pas faire. C'était... Donc voilà. Et en fait, après quelques mois, j'ai perdu mon boulot. Bon, j'ai un peu négocié une rupture conventionnelle, mais de toute façon, je pense que je me serais fait licencier à un moment ou à un autre parce que je dormais plus la nuit. Hein. Même à 6 mois, elle dormait pas bien. Margot, en fait, c'était un révélateur. Tu sais, les enfants font leur nuit à 3 mois. Non, elles font leur nuit quand elles font leur nuit. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est toujours pas gagné. Tu vois. Donc, ça veut rien dire. Il faut arrêter de faire croire aux gens que les enfants font leur nuit à 3 mois. Parce qu'en fait, tu te crées une attente idiote.
Irréaliste. Complètement irréaliste, et je rappelle quand même que ça n'a rien à voir avec l'allaitement maternel, c'est un mythe. Les enfants au biberon ne dorment pas plus la nuit.
Non, et puis alors en plus, pour le coup, moi j'allaitais Margot jusqu'à 6 mois, et il y a eu des moments où elle a dormi super bien à l'été, et c'est pas du tout ça qui faisait qu'elle dormait pas bien. Elle demande moins. Donc bon. Et là en fait, il y a une succession de petites choses qui sont passées. Où je suis hyper contente aujourd'hui d'avoir déconstruit plein de choses et de me dire, waouh, en fait, elle m'a appris plein de choses, Margot. Bon, elle a été à la crèche 3 jours par semaine, parce que je travaillais 3 jours par semaine. Et j'étais vachement mitigée, parce qu'à la fois, je trouvais que c'était important pour elle qu'elle ait des contacts sociaux, c'était un peu voilà, des amis, des trucs. Alors à 6 mois, bon, c'est un peu, peut-être un peu bizarre. Et moi, j'allais pas super bien. Et d'avoir les 3 jours, parce qu'après avoir perdu mon boulot, après les 3 jours, je l'ai passé à la maison à dormir. En fait. Et donc j'étais mitigée, parce qu'à la fois, c'était pas l'idéal, et à la fois, j'aurais jamais tenu le coup si j'avais été toute la semaine avec elle. Voilà. Et j'ai mis super longtemps à me faire suivre parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude de me dire que je devais me débrouiller toute seule, en fait. Il fallait que j'y arrive. Que les bonnes mères, elles se plaignent pas, elles font l'intendance à la maison, elles travaillent, elles s'occupent de leur enfant. Moi, en plus, j'avais pas de travail, donc j'avais rien à dire, tu vois. Enfin, c'était ma façon de me parler à moi-même. C'était pas très, très bienveillant. Et en plus, moi, enfin, encore une fois, Laurent, il aide à la maison. Non, il participe à la maison, il fait ce qu'il peut. C'est pas, tu vois, c'est pas. Non, c'est vraiment, c'est pas un problème. C'est un problème très intime. Et mais j'ai mis super longtemps à me dire, mais là, c'est, il faut changer un petit truc là. Ça va aller, en fait. Tu fais bien comme tu peux là où t'en es. Mmh. Et donc, en fait, hyper vite, on a voulu un deuxième enfant. Donc, à 13 mois de Margot, j'étais enceinte une deuxième. Et là, la cata. Je faisais des crises d'angoisse. J'arrivais pas à gérer. Margot, elle était petite. Elle avait encore son reflux. Et j'étais pas bien. Et là, imprévisible, je fais une fausse couche. Voilà. C'est très bizarre parce que ça a été. Là, pour le coup, ça a été traumatique parce que j'étais super mal prise en charge. J'ai vu un gynécologue qui m'a dit écoutez, moi, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier et quand on n'entend pas le cœur qui bat dans l'utérus, c'est que ça va pas. Non, docteur, en fait, là, ça me fait chier de faire votre boulot. Excusez-moi pour la vulgarité, mais en fait, c'est une fausse couche, il faut juste me le dire. Donc, je veux dire, à la fin de la consulte, je dis en fait, je fais une fausse couche, c'est ça. Bon, d'accord. Rentrez chez vous, la nature va faire son travail.
Non.
Je rentre chez moi, c'était les vacances, j'étais dans ma belle famille. Et effectivement, j'ai eu de la chance, entre guillemets, enfin, je pense que mon corps a super bien fait son travail, effectivement, ça s'est passé. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et il se passe que tu as des contractions qui font mal, hein. Il se passe que tu accouches de ton... petit, je sais pas, parce que moi, fausse couche, c'est vraiment un mot qui me donne des frissons, tu vois. Il n'y avait pas grand-chose de chaud dans un accouchement, même s'il est précoce, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et puis, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, vraiment, moi, je suis... Et en fait, je me suis effondrée, littéralement. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Je perds le doudou de Margot, un jour. Et elle était en porte-bébé parce que je la portais beaucoup, je trouvais ça fort. Enfin, j'adorais la porter, même si j'ai... Tu vois, j'étais habillée parce que, encore une fois, j'ai pas trop pour toucher ma peau, mais elle était contre moi dans le porte-bébé, et puis elle m'a un peu appris aussi à privatiser de me toucher. Et je perds le doudou. Et là, mes bras m'en tombent, tu vois, et je me mets à pleurer. Et je pouvais pas m'arrêter, j'appelle Laurent dans la rue, je fais Laurent, j'ai perdu le doudou. Il dit, ça va pas, toi, hein? Je fais, non, ça va pas. Et là, j'ai été vachement aidée, en fait. J'ai été voir la psychologue de la crèche de Margot. Je lui ai dit, écoutez, ça va pas. J'aimerais vraiment remonter la pente. C'est trop dommage. J'aime ma fille. Je pense pas avoir une vie malheureuse. Mais ça va pas, j'y arrive pas. Et elle me dit, écoutez, je vous conseille bidule et bidule, deux psys. Il y en a une qui est psychanalyste. Et l'autre, est, je sais pas. Et moi, je me dis, oh, surtout pas la psychanalyste, je sais pas trop ce que c'est, je comprends rien et tout. Et donc j'appelle celle que je pensais être l'autre. J'arrive en rendez-vous chez elle et elle me dit bonjour, je m'appelle Madame Machin et je suis psychanalyste. Et là je me dis, waouh, la vie est hyper bien faite. Parce que le contact est super bien passé. Et ouais, vraiment, elle était, ça s'est bien passé. Et donc j'ai fait une analyse, là j'ai encore des rendez-vous avec elle régulièrement. Et en fait, moi, j'avais une idée de l'analyse qui n'était pas tout à fait ce que c'est. Moi, je pensais qu'on décortiquait, que c'était vachement mental. Et en fait, avec elle, on travaille sur les émotions, sur ce que ça me fait ressentir, sur ce que j'ai ressenti. Et en fait, ça permet, moi, ça m'a vraiment permis de dénouer des mini-traumas de l'enfance sur plein de sujets. J'ai un père qui crie beaucoup. Il est nerveux, c'est comme ça, tu vois. Et au moindre bruit, je sursaute. Parce que j'ai peur qu'on crie. Et aussi, quand je suis maladroite, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on va me dire, quoi. Et donc, ça m'a permis de pas mal travailler là-dessus, d'être plus à l'aise avec moi-même et de dire, si je fais une erreur, je fais une erreur. Et si quelqu'un crie, c'est, en fait, ça ne regarde que lui, c'est sa nervosité à lui. Et donc, ça m'a permis vraiment de remettre ma mère à sa place, c'est-à-dire sa place de mère qui a fait ce qu'elle pouvait, mon père à sa place, qui a fait ce qu'il a pu aussi avec l'éducation et l'enfance qu'il a eue. Il est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a eu une enfance difficile par certains côtés. Bon, voilà. Et on en a un peu parlé. Donc, il a vécu la paternité qu'il a pu vivre, en fait. Et c'est quelqu'un d'adorable. Il nous a pas... J'ai pas été battue. Et il fait ce qu'il peut pour ses enfants avec ses douleurs à lui qui sont... Voilà. Et j'ai de la chance. Hein. Je pense que j'ai des parents quand même très aimants et tout. Donc, il y avait des choses à... C'est des mini traumas que j'ai vécu, des choses que j'ai vécues comme ça. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais été en Ardèche chez une amie d'amis qui est bioénergéticienne, qui travaille beaucoup sur le... Enfin, je suis pas très calée hein, dans le sujet, mais qui fait vraiment travailler sur la spiritualité, mais à dénouer aussi, pareil, les croyances. En fait, elle travaille beaucoup sur les croyances qu'on a sur soi-même. Je suis nulle, je vois rien. Et à vraiment faire le tri dans tout ça. Et en fait, ça, c'est vraiment lié, je pense, à Margot. Parce que ça a été une expérience très spirituelle de devenir mère. D'avoir cette petite fille, d'avoir cet accouchement physiologique comme je voulais, je ne me rendais pas compte que c'était en fait vraiment un chemin spirituel d'avoir un enfant. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, je me disais, mais en fait, c'est important de la connecter à l'univers, enfin, pas de manière quotidienne, mais les saisons, le vivant, les animaux, les plantes. Et moi, ça m'a complètement reconnectée, en fait, de la voir. Et la thérapie avec la psychanalyste et la thérapie, ça avait été ouvert, en fait, à une spiritualité. Et ça m'a fait prendre plein de prises de conscience. Et je me rends compte que quand j'allais pas bien, c'était parce que j'étais complètement déconnectée. J'étais dans un monde de il faut, très matériel, très... très conventionnel, et qu'en fait, plus je me rapproche du vivant, d'une forme de simplicité vis-à-vis de la vie, et puis de croyances très profondes dans le fait que chaque vie est miraculeuse, en fait, que ma vie est belle, profondément belle. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça que Margot m'a fait réaliser, pas comme ça, hein. Elle a ouvert plein de portes. Avant la naissance de Margot, je pense que j'étais dans une... Si je peux prendre l'image d'une maison, j'étais dans une pièce où il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, où je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais il y avait quand même des choses qui se passaient quand même plutôt super bien. Et c'était bien. Et en fait, Margot, elle est arrivée, et pour moi, je l'ai vécue comme on ouvre une porte, et il y a une autre pièce à côté. On voit pas trop ce qu'il y a dans la pièce non plus, mais c'est différent. Et j'ai eu le choix, en fait. Je pouvais ne pas le faire, mais pour moi, je me suis dit, tiens, chouette, il y a un truc à voir. Et c'est dur, hein, déconstruire, regarder un peu ses blessures, c'est dur. Mais je me dis, ah, ça vaut vraiment le coup. Mon but dans la vie, c'est d'être heureuse, que ma fille le soit, mon mari, mes proches et tout. Donc peut-être que c'est plus... Et là, sur le seuil, j'ai derrière moi la pièce un peu inconsciente, et devant moi la pièce plus lumineuse, où il y a de la lumière. Je sais pas, ça peut paraître un peu perché, mais pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant 3 ans, là. Je vois les choses avec... Comme s'il y avait la lumière qui s'était allumée. Où je vois les choses, je me dis, mais c'est pas juste le hasard que ton amie t'ait dit qu'elle a été accompagnée par Paloma, et que tu te dises que toi, c'est ce que tu veux. C'est pas le hasard. Si... l'allaitement s'est pas passé exactement comme tu veux, c'est qu'en fait, il faut apprendre à... Enfin, c'est que toi, ta leçon, tu peux apprendre à être simple, à être humble. C'est... voilà, ben, y a des choses qui se passent pas comme on veut, mais il faut garder le cap, et le cap, c'est la lumière, quoi. Enfin, je sais, c'est... Pour moi, c'est évident, maintenant. C'est... Il y a des jours sombres, hein, attention.
Bien sûr, tout le monde.
Oui, oui, non, mais voilà, parce que, attention, quand... la vraie vie, c'est la vraie vie, hein, ça reste... il y a la réalité.
Mais j'aime beaucoup ta métaphore, en tout cas, tu vois, de la maison avec cette pièce-là, ça me fait penser, bah ouais, j'ai aussi dans l'idée qu'il y a une pièce avec plein de vieux cartons, tu sais, les archives que t'as mis dans un coin, et qu'au bout d'un moment, bah, si tu veux faire de la place, t'es obligé d'aller voir, quoi. Tu peux pas tout balancer comme ça.
Non, et puis, encore une fois, c'est vraiment très, très personnel, hein. Mais aujourd'hui, je vois mes blessures comme des choses qui ont été, voilà, des moments douloureux, des choses douloureuses, des incompréhensions qui m'ont fait du mal, mais aussi comme des baromètres. Si quand on me dit quelque chose, tout de suite, je suis sur la défensive ou je me mets à trembler, c'est pas le tremblement qui est problématique, c'est que ça a touché quelque chose. Et effectivement, l'idée des cartons, c'est très parlant, c'est ça, c'est qu'il y a un moment là. Mais t'as toujours le choix. T'as le choix d'aller ouvrir le carton, de faire, bon, allez, ça va pincer, mais après, ça ira mieux. et voilà. Et je pense que la thérapie, ou même mon chemin de vie aujourd'hui, il me fait me dire, mais j'ai toujours le choix, moi, d'ouvrir la porte ou pas, à une question. Et mon enfant... C'était une super opportunité d'ouvrir des portes, de dépoussiérer tout ça. Et je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, ça me fait me dire dans ma vie que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui ne sont vraiment pas trop plaisantes pour moi, des difficultés, je peux vraiment avoir confiance en moi. Je ne suis pas mieux que quiconque, mais je peux être une bonne personne pour moi-même, en fait. Mon intuition, elle est bonne. Et il suffit de l'écouter... pour me sentir bien, et ça c'est chouette en fait. Et j'ai découvert aussi l'intuition, tu vois, je me disais, non, mais ça c'est une espèce de croyance, ça n'existe pas, tu vois, j'étais vachement rationnelle, il fallait que ce soit scientifique. Et maintenant je me dis, mais il y a eu des intuitions dans ma vie, mais je sais pas, qui en fait m'ont vraiment aidé à grandir, et qui aujourd'hui encore, maintenant je me dis, je vois les intuitions que j'ai, je me dis, ah mais... construit là-dessus, ça va aller, ça va être bien, et tu vas pouvoir le faire. Putain, je t'assure, tu m'aurais rencontré il y a 5 ans, non, je t'aurais pas dit ça, quoi. Vraiment, j'étais pas là. Hein. Et en même temps, heureusement que j'étais pas là à cette époque-là, parce que maintenant je suis là aujourd'hui. Tu vois, moi je suis vachement heureuse de me dire, en fait, bah, j'ai grandi, et j'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir grandir, d'être entourée par des gens qui m'ont soutenue, et ça n'a pas été facile pour eux, hein. Laurent, ça n'a pas été facile pour lui. Mais qui sont là, qui sont toujours là, qui croient en moi, alors que vraiment, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, ça ne vaut pas le coup, quoi. Mmh. Je ne vaut pas le coup, on arrête. C'est pas la peine. Et là, y avait toujours des gens, il y avait Laurent qui y croyait, il y a Margot qui y croit, parce que je suis maintenant, c'est bizarre, mais intimement persuadée que les enfants, d'une certaine manière, choisissent leur famille, alors c'est un peu, ça m'émeut toujours de voir ça, parce que j'en suis convaincue, ils choisissent leur famille tout comme nous, on les choisit un peu d'une certaine manière, en fait. Moi, je vois Margot comme une personne où on s'est choisi. Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas raconté, ça n'a rien à voir. Mais quand on s'est décidé à avoir Margot, on s'est dit, voilà, bon, on y va. Et c'est... Le jour où je suis tombée enceinte, mais vraiment à la minute où je suis tombée enceinte, je l'ai su. J'ai dit à Laurent, ah, ça a marché.
C'est incroyable, ça.
Et il me dit, ouais. On en reparle dans 3 semaines. Et j'étais là, bah non, mais si, je t'assure, c'est bon et tout. Et effectivement, bon, voilà. Et je pense que ça, c'est des expériences qui, au début, je me disais, ouais, bon, allez, c'est plus logique, quoi. Et non, pour moi, maintenant, c'est autre chose. C'est que si je m'ouvre à ce qui arrive, j'ai accès à autre chose que juste du matériel et du scientifique. Ouais. Mais c'est, le jour où elle est arrivée, c'est vraiment la lumière s'allumait. Une fois encore, cette métaphore de la lumière est hyper importante. Pour moi, les choses étaient plus vives, la lumière était plus vive.
Ça met en perspective certaines choses, ça donne une autre coloration.
Ouais, tout à fait, exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça a été. Alors, après, on peut en rigoler. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu illuminée. J'étais oh, mais j'ai senti, je me sens complètement waouh. Et pour moi, ouais, je crois qu'on. Aussi difficile que puisse être l'expérience de l'enfance par certains côtés. Hein. Peut-être, hein, j'en sais rien, j'ai pas. Mais peut-être qu'on choisit les parents qu'on va avoir. Et eux aussi, en fait, choisissent les enfants qu'ils ont. Et après, c'est des opportunités qu'on prend ou pas de s'éveiller un peu plus à chaque fois, quoi, avec eux.
Non, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Là, c'est rigolo. Non, mais parce que moi, j'ai eu cette sensation-là aussi de le sentir pareil à la minute, comme tu dis, quoi. Et en même temps, d'un côté, en être frappé, de se dire waouh, oui, ça y est, il y a cette connexion qui dit qu'est au-delà, tu vois. Et de l'autre côté, tu sais, rester très terre à terre et pas vouloir y croire parce que se dire non, mais c'est tellement fou, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Et après, te dire que si, en fait, si, ça peut.
Exactement. Alors, pour Margot, ça m'avait vraiment fait ça. Enfin, vraiment, je pourrais jamais prouver quoi que ça, mais je peux. Laurent, lui, je lui ai dit ah, mais c'est incroyable. Et quand je suis tombée enceinte la deuxième fois, ça m'avait pas fait ça. Bon, après, voilà, il n'y a rien à en déduire, tu vois. Mais c'est vrai que pour Margot, ça avait été. Et je me suis dit, waouh, ça c'est fort, tu vois. Mmh. Et je me souviens, je lui parlais avant, parce que comme j'étais quasiment sûre, toi, je sais pas, c'est bizarre. Je me disais, ouais, ça c'est bon, ça marche. Et je lui parlais, je dis, bon, tu t'accroches, hein, la vie ça vaut vraiment le coup. Il y a des coups durs, mais ça vaut vraiment le coup, accroche-toi, reste là, tu vas voir, c'est chouette. Et elle était là, et c'est une petite fille très chouette. Moi j'ai beaucoup grandi, c'est drôle, hein, avec elle.
Si ça te va, on va arriver à la petite question de la fin.
D'accord.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter, peut-être
Oui, à un moment, je ne sais plus, on en a parlé, mais en fait, il y a une chose hyper importante que je voulais ajouter. C'est que, bon, par rapport à l'accouchement, par rapport à la maternité, à la parentalité, quelle qu'elle soit, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait de l'information et que les personnes puissent faire des choix, en fait, avec toute l'information disponible. Et surtout, sentir qu'elles ont du soutien autour d'elles et que les gens autour d'elles ne jugent pas, en fait, et disent ah ouais, c'est ton chemin, c'est ton choix, bah écoute, ouais, c'est chouette. Parce que moi, quand je disais que je veux pas de péri, parfois c'était un peu tu veux pas de péri, tu vas voir, tu vas en demander une, quoi. Et en fait, ça, je pense que c'est hyper important qu'on arrive à créer une forme de fraternité, sororité qui permet de se dire que l'autre fait son chemin et que c'est bien. Et que tout ce qui compte, c'est qu'il ait l'information et qu'il puisse en fait construire sa confiance en lui. Et pas le contraire. Parce qu'on n'a pas besoin du contraire, ça va. Il y en a suffisamment des trucs négatifs. On a besoin de la confiance en soi. Et c'est. Voilà. Et pour moi, des mamans, des parents, des partenaires, femmes, hommes. C'est toujours, s'ils ont confiance en eux, ils pourront donner cette confiance à l'enfant. Ce sera plus facile. Et c'est chouette, on a besoin d'enfants qui ont confiance en eux, ça fait trop de bien. Voilà. Donc, moi, je pense que les points importants, c'est la confiance. Pour construire la confiance, c'est hyper important. On en a besoin. Et les enfants, ils en ont besoin. Et on est super belles. Ça, je ne l'ai pas dit, mais. On est des femmes, enfin les femmes sont belles, les hommes sont beaux, l'humanité c'est hyper beau, faut qu'on arrête de se croire maudits, en fait, vraiment. Hein. Et à partir de là, on peut faire des choses incroyables. Donc je vais dire aux gens que, enfin dire aux gens, si j'ai un message à dire, c'est franchement, vous êtes belles. Et vous allez y arriver. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y arriver ensemble. Ouais. Et ce sera encore plus beau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee. Enfanter et devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.